passion pas manier. C'est où salon qui mène. La peau n'est pas qu'à trouver. Toi de nous qui goûter. En qui j'en ai.
Radio de la paix, il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Madame, monsieur, bonjour et merci de choisir Radio de la paix pour vous informer. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, poursuit ses échanges périodiques avec les partis politiques. C'est la jeunesse d'Abobo qui a bénéficié hier de cette 9e rencontre marquée par un panel sur les responsabilités en politique. Et hier également, premier jour de la grève annoncée par les centrales syndicales des secteurs éducation, formation et santé. Notre reporter Christelle Yesso a visité plusieurs structures à Abidjan et le suivi est mitigé selon son constat terrain. On en parle dans cette édition. D'ailleurs, le sujet est au cœur de l'invité de la rédaction aujourd'hui où Jean-Claude Comé recevra Théodore Zadi Nyanya, président de la Confédération Plateforme Nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire qui se prononcera sur ces grèves. Enclenchée. Hors des frontières ivoiriennes, on s'intéressera à l'actualité au Sénégal où les atouts de Vision Sénégal 2050, l'agenda national de transformation, ont été présentés lundi à Dakar comme le référentiel des politiques publiques des nouvelles autorités. Mata Touré fera le point sur les 4 commandements retenus. Et puis nous aurons également la revue des titres des journaux parus ce mercredi. Ça sera l'affaire de Mel Emmanuel. Voilà pour nos grandes lignes. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a, dans le cadre de ses échanges périodiques avec les partis politiques, rencontré la jeunesse d'Abobo mardi au centre culturel de la commune. C'était autour d'un panel dont le thème était la responsabilité des jeunes dans les partis politiques, état des lieux, défis et perspectives. Les panélistes étaient des responsables de jeunesse du RHDP, du PDCI et du RDP, le Rassemblement pour la démocratie et la paix. On en sait un peu plus avec Junior Cardin.
Le panel et les échanges ont duré plus d'une heure. Au terme des discussions, Kone Yaya, président des jeunes FPI d'Abobo, a appelé à dépassionner le débat politique.
Parce que aussi longtemps qu'on va associer la politique avec tout ce qui est violence, le débat politique est biaisé d'avance. Quand nous réussissons à montrer à la jeunesse que c'est elle-même qui doit être au centre de la politique, mais nous aurons tout gagné.
Pour Jean-Stéphane Akichi, vice-président de la jeunesse RHDP, les jeunes doivent se battre pour mériter leur place au sein de leur formation politique.
C'est maintenant que les jeunes s'intéressent beaucoup à la chose politique. Et en politique, il faut aller au combat. Donc à ces jeunes-là, je leur dis, il y a la place pour tout le monde. Il faut juste faire ses preuves et naturellement, tout viendra.
Quant à Koulaye Mourias, président de l'Union des jeunes du COGEP, la formation doit être un préalable à l'engagement des jeunes en politique.
Que les jeunes travaillent à occuper des postes de responsabilité pour être à la hauteur des défis que placent leurs responsables en eux. Mais pour cela, ils doivent se cultiver pour être à la hauteur de toutes les missions qu'on leur confierait.
Le CNDH, initiateur de ces échanges, qui sont à leur 9e étape à Abobo, compte tisser sa toile sur toute la Côte d'Ivoire. Sa présidente, Namizata Sangaré.
De plus en plus, le programme connaît un très grand engouement aujourd'hui à Abobo et nous sommes demandés dans plusieurs autres localités, notamment d'Aloa, Korogo, et nous allons nous déployer dans toute la Côte d'Ivoire à l'effet de travailler avec les jeunes des partis politiques, de leur donner la parole pour parler de paix et de valeur à leur parti.
Pour sa responsabilisation en politique, la formation technique, la formation politique et le réseautage sont les armes indispensables à la jeunesse, selon Magloire Ndeye de Friedrich Naumann à la conférence inaugurale.
Et puis la journée internationale de la jeune fille a été célébrée lundi dernier à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro autour du thème « La vision des filles pour l'avenir ». Ce thème exprime l'espoir et l'ambition des filles face aux défis auxquels elles sont confrontées. Retrouvons notre envoyé spécial au pied de la basilique, Didier Blé.
Prestations théâtrales, messages de sensibilisation, slam, mais aussi panel ont meublé cette journée qui, au regard de tous les défis qui attendent la fille, sonne comme un bref bilan afin de rebondir. Professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny.
Les crises politiques et militaires, l'effondrement des valeurs morales, la persistance de la pauvreté et de l'ignorance ont entraîné un recul des droits. Cette journée offre l'occasion d'écouter les filles, de proposer des solutions innovantes qui accéléreront les progrès vers un avenir où chaque fille pourra réaliser son plein potentiel.
À l'initiative de l'ONG Voix des filles Côte d'Ivoire, ce moment de réflexion explore des solutions. Professeur Boly Jean Kouassi, président de Voix des filles Côte d'Ivoire.
Alors que le monde continue encore de manquer à ses engagements envers les filles, comment VDFC s'entraîne-t-elle à transformer leurs aspirations?
Les filles, catégorie sensible de la population, doivent bénéficier d'une attention particulière. Candia Camara, présidente du Sénat ivoirien et marraine de l'événement.
Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire apportera toujours son soutien au gouvernement pour plus de justice, d'égalité et d'équité.
Notons que la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassene Batouri, représentait la première dame Dominique Ouattara. Et puis, en prélude à cette rencontre, les 9 et 10 octobre, des jeunes filles élèves de Yamoussoukro avaient été formées aux valeurs de la paix par la fondation Félix Houphouët-Boigny.
Exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable, c'est le thème de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire UEP qui se tient du 13 au 18 octobre à Genève en Suisse. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bik Togo, qui prend part à cette session, a appelé à renforcer le cadre législatif afin d'encadrer les avancées technologiques tout en préservant le droit humain. On l'écoute.
Il urge de mettre au centre de cette avancée technologique l'humain en donnant in fine une conscience à la science en l'humanisant. C'est pourquoi je crois fermement que tous ces progrès technologiques doivent être encadrés. Cet encadrement passe par l'élaboration de législations qui garantissent l'équilibre entre les innovations scientifiques et la préservation des valeurs et des droits humains. À cet effet, la protection de la vie privée, l'éthique dans l'utilisation des données, la lutte contre les inégalités numériques sont autant de responsabilités que nous, parlementaires, devons mettre au cœur de nos actions. Le Parlement ivoirien s'inscrit dans cette dynamique pour l'adoption des lois protectrices des données à caractère personnel et de lutte contre la cybercriminalité. Je reste persuadé que le progrès scientifique et technologique doit être au service du renforcement de la paix, de la consolidation de la justice sociale et de la protection durable de l'environnement.
Vous écoutiez un extrait de l'intervention du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bik Togo, à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire. L'actualité nationale, c'est aussi le mot d'ordre de grève lancé par quatre centrales intersyndicales dans les secteurs de l'éducation, formation, de la santé et des affaires sociales qui n'a pas été totalement suivi dans la capitale économique ivoirienne. Prévue pour une durée de 72 heures, cette mobilisation a suscité des réactions variées au sein des établissements d'Abidjan. Plusieurs structures suivent leur fonctionnement habituel, indiquant un suivi mitigé de cette initiative. Christelle Yesso a fait le tour de quelques établissements sans constat.
L'avis de grève lancé n'a pas été totalement suivi dans la plupart des établissements que nous avons visités. Du côté de l'école maternelle Djeloukou d'Atekoubé, aucune perturbation n'a été enregistrée selon sa directrice Eumon Neabissa.
Bon, ici, il n'y a pas eu de grève. Depuis ce matin, tout le corps enseignant est présent. Les élèves aussi sont là.
Est-ce que vous ne vous êtes pas fait, vous êtes concernés aussi?
Oui, effectivement, nous sommes concernés. Mais comme le chef Hirachi nous a dit d'être présents à nos postes, donc nous avons respecté sa parole.
À l'école primaire EPP Atekoubé 1, le constat est mitigé. Madame Sanogo, directrice de cet établissement, relève l'absence de quelques enseignants.
Il y a eu cours aujourd'hui dans certaines classes. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui vont expliquer la raison de leur absence.
Au lycée moderne de Cocody, la grève a bel et bien été observée, nous raconte cet élève.
Depuis le matin, il n'y a pas eu vraiment de cours. Ils nous ont dit qu'on devait venir voir le vendredi.
Le secteur de la santé est aussi concerné par cette grève. Toutefois, aucune intervention n'a été signifiée au sein de l'hôpital Edmond Basque du Plateau.
Agbe Jacqueline, agent d'accueil. On ne fait pas de grève. Depuis matin, nous sommes au travail, chacun à son poste. Les médecins sont là.
Un constat général également relevé par des agentes du ministère de la fonction publique que nous avons rencontrées sur le terrain.
On n'a pas d'appréciation, on est venu juste regarder.
Mais dans les centres de santé, la grève n'est pas respectée.
Dans tous les lycées que vous avez vus là-bas, il y avait la grève.
Les écoles primaires, la grève n'est pas respectée. arrêter.
Cette grève est prévue pour une durée de 3 jours, du mardi 15 au jeudi 17 octobre 2024.
À présent, direction Kafolo, un village du département de Kong, dans la région du Tchologo, qui n'a pas échappé à des intempéries. Cette localité a été victime d'inondations et de pluies torrentielles qui ont occasionné d'énormes dégâts. C'est dans cette optique que le ministère de la Solidarité, de la Cohésion nationale et de la lutte contre la pauvreté a apporté son assistance à 61 ménages impactés à travers des dons en vivres et non-vivres. Témoin pour Radio de la Paix, notre correspondant régional Tommy Corona.
Détail des dons avec Kwame Coutier, directeur régional de la solidarité, de la cohésion nationale et de la lutte contre la pauvreté du Tchologo.
150 sacs de riz, 50 cartons d'huile, 50 cartons de tomates, 50 cartons de spaghettis, 50 cartons de savon, 80 nattes de 2 places, 20 tonnes de ciment, 76 seaux, 300 feuilles de tôle.
La chef de cabinet du dit ministère énumère ici quelques dégâts causés. Madame Anka Kouléon.
Qui ont causé d'énormes dégâts en engloutissant 22 maisons, inondant 65 maisons, 3 bâtiments du collège moderne et la mosquée du village, en détruisant aussi des champs et en emportant des animaux.
Avant d'exprimer la solidarité des autorités ivoiriennes, non sans donner ses conseils, Madame Anka Kouléon.
Aujourd'hui, ma présence ici symbolise non seulement le soutien de l'État, mais également la détermination de notre gouvernement à travers les actions du ministère de la Solidarité à accompagner chacun de vous dans la reconstruction de vos vies et de vos foyers. Les événements de cette nature nous rappellent donc l'importance de la prévention et de la préparation.
Notons qu'en plus de ces dons, la somme de 2 500 000 francs CFA a été remise aux 61 ménages impactés. Tommy Corona, de retour de Kafolo, 60 km à l'est de Kong, région du Tchologo, Radio de la Paix.
Dans l'actualité au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, des experts ainsi que divers acteurs ont largement expliqué les atouts de Vision Sénégal 2050, agenda national de transformation, présenté lundi dernier à Dakar comme le référentiel des politiques publiques des nouvelles autorités arrivées au pouvoir en avril dernier. Voici le point sur ce qu'il conviendrait d'appeler les 4 commandements pour sortir le Sénégal du lot. Avec Mata Touré.
Vision Sénégal 2050 repose essentiellement sur la promotion de la bonne gouvernance, de l'aménagement optimal du territoire national, du développement durable, d'un capital humain de qualité, de l'équité sociale et d'une économie compétitive ainsi que de la solidarité africaine. Pour le premier axe, il va consister à asseoir une économie compétitive à travers un cadre macroéconomique assaini et stable, l'émergence d'une société numérique et des filières compétitives ainsi que le développement de pôles économiques viables. Pour le second axe, il sera articulé autour de la durabilité. Le développement du Sénégal ne sera viable que s'il respecte et préserve son environnement. Le troisième axe sont autour du renforcement du capital humain et de l'équité sociale. Le quatrième axe, enfin, est celui de la gouvernance et de l'engagement africain. Il vise à refonder les institutions pour qu'elles servent au mieux les aspirations des Sénégalais. En somme, pour rompre avec le sous-développement, ils ont annoncé 3 objectifs d'ici à 2050. Tripler le PIB par habitant, soutenir la croissance de 7 à 8% par an et diviser par 4 le taux de pauvreté dans le pays. Le plan Sénégal 2050 promet de mieux lutter contre la corruption, miser sur les ressources naturelles, transformer le modèle agricole, réindustrialiser le pays ou encore développer une assurance maladie à l'échelle nationale. Le gouvernement entend également atteindre 100% d'accès à l'eau et à l'électricité.
Merci à vous, Mata Touré, pour toutes ces précisions. On enchaîne avec la revue des titres des journaux de ce mercredi, dont Emmanuel se charge ce matin. Bonjour, Mel.
Bonjour, Linda. Bonjour à toutes et à tous. C'est depuis hier qu'est entré en vigueur le mot d'ordre de grève annoncé par certains syndicats du secteur éducation-formation et bien d'autres. Et pour ce qui est de son application sur le terrain, voici le traitement qu'en fait la presse ivoirienne. D'emblée, il faut savoir que 2 versions s'opposent. La première, selon laquelle la grève n'a pas eu lieu ou s'est soldée par un échec, soutenue en une par Fraternité Matin, Le Jour Plus, Les Sorts Ivoiriens ou encore Le Matin qui, lui, parle de 100% de services assurés dans l'enseignement primaire. Ce à quoi répond Dernière Heure Monde, mettant en avant la deuxième version en manchette, secteur éducation-formation, prime des enseignants, l'école paralysée hier sur tout le territoire, avec un taux de paralysie de 87% dans le primaire, 96% dans le secondaire et 100% dans l'enseignement technique. Et cette version des faits de la grève est reprise par bon nombre de journaux, à savoir Le Nouveau Réveil, Le Quotidien d'Abidjan ou Notre Voix. En fin de compte, Le Patriote, au-delà du constat, placarde en couverture « Cette grève est politique et manipulée ». À lire, toujours dans la presse ivoirienne, le bilan du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mombé un an après sa nomination. 16 octobre 2023, 16 octobre 2024, an 1 de Robert Begré-Mombé à la primature, les grands pas d'un Premier ministre inattendu écrit l'avenir qui, dans sa parution d'aujourd'hui, s'y consacre largement. Soir Info s'intéresse au prochain défi de Begré-Mombé après un an jugé satisfaisant à la primature. Fraternité Matin qualifie Begré-Mombé d'homme de mission, une expression sur laquelle rebondit le patriote qui ajoute « homme de conviction et d'action aux côtés du président Ouattara ». Coopération bilatérale Ghana-Côte d'Ivoire, c'est avec ce sujet que nous refermerons la revue des titres des journaux ivoiriens de ce jour. Le chef d'État ivoirien et son homologue ghanéen se sont rencontrés. Entre autres sujets tels la situation aux frontières, la politique et le cacao, l'Inter et Soir Info se proposent de livrer les dessous du tête-à-tête des deux chefs d'État. Et sur la question de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le rassemblement titre que face au faux panafricanisme, Ouattara, Akufo, est le duo qui va sauver l'organisation sous-régionale. Merci à toutes et à tous et bonne lecture de vos journaux.
Merci également à vous, Mel Emmanuel. Vous serez de retour dans le point de 8h pour toujours la revue des titres. L'invité de la rédaction aujourd'hui est Théodore Zadé Nyanya, président de la Confédération Plateforme Nationale des Organisations Professionnelles des Secteurs Publics et Privés de Côte d'Ivoire, qui se prononce sur les grèves enclenchées par certains syndicats des secteurs formation, éducation et santé. Ces grèves remettent-elles en cause la trêve sociale signée en 2022 par le gouvernement ivoirien et les organisations syndicales? Qu'est-ce qui a été obtenu depuis la signature de cette trêve? L'invité de Jean-Claude Comé nous éclaire dans cet entretien à suivre maintenant.
Bonjour Monsieur Théodore Zadé Nyanya.
Bonjour.
On entend des syndicats qui annoncent des grèves au niveau par exemple de l'éducation, au niveau du secteur de la santé. Alors c'est on se pose la question de savoir est-ce que la trêve sociale que vous avez signée en tant que syndicat est rompue?
Je vous remercie, mais je voudrais tout de suite vous rassurer que la trêve sociale est un paradigme nouveau qui est une construction jour après jour. En 2017, nous avons vécu dans la première trêve sociale des grèves en 2019, 2020, 2021. Mais on a quand même maintenu l'architecture de la trêve sociale. Donc, il peut arriver qu'il y ait quelques crispations, des incompréhensions même, que des camarades déposent des préavis. Cela ne met pas fin à la trêve sociale qui nous permet, avec le gouvernement, de travailler dans la sérénité. Nous comprenons que des préoccupations sectorielles n'aient pas été bien réglées au niveau des secteurs d'activité puissent monter à la surface et donnent le sentiment que la trêve sociale est brisée, ce qui n'est pas le cas.
Est-ce que vous avez la même lecture que le gouvernement, parce que lors de la signature de cette trêve avec les centrales syndicales, l'idée c'était d'apaiser le niveau social pour que les travailleurs puissent contribuer au développement du pays sans perturbation, alors qu'on constate ces perturbations avec ces annonces de grève.
Mais la réalité c'est que depuis 2022 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de perturbation. Donc ça c'est une réalité, ça veut dire que des efforts sont faits au niveau des organisations syndicales, au niveau du gouvernement pour que nous maintenions cette architecture de paix. Nous sommes convaincus qu'il y a des défis à relever. Mais il nous faut chaque fois travailler à ce que nous puissions maintenir, n'est-ce pas, cette construction de paix. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce qui est important, de faire face aux revendications de nos camarades, de trouver des solutions. Nous travaillons depuis deux semaines pour que des éléments soient pris en compte. Vous avez pu suivre dernièrement, au niveau de la primature, la mise en place du comité consultatif de la fonction publique, dont la mission est de gérer les questions à caractère financier qui peuvent advenir pendant la période de trêve. Parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'issue de la signature de la trêve sociale, il y a une architecture qui a été mise en place. Les comités sectoriels de discussion à la base, ils doivent gérer certaines questions à un certain niveau. Et au niveau sommet, je dirais, on a deux structures, le comité consultatif de la fonction publique, dont la mission est de régler les problèmes à caractère financier, et le comité de suivi de la trêve sociale qui est logé à la primature, qui doit chapeauter tout cela. Donc, je pense que le dispositif est en train de se mettre en place et Nous sommes convaincus que petit à petit, tout le monde va rentrer dans les rangs et que nous aurons donc la paix telle que nous la souhaitons. Mais il nous faut faire face à la situation actuelle par la négociation, par l'apaisement, et c'est ce que nous faisons, nous, en tant que centrale signataire, pour amener nos camarades à s'inscrire dans le dialogue qui, pour nous, est productif et qui a donné des résultats que tout le monde sait.
Entre autres revendications des syndicats, c'est le paiement des primes trimestrielles. On sait qu'il y a des secteurs d'activité qui en bénéficient et d'autres pas pour l'instant. Quel est votre avis, vous, en tant que responsable syndical et fonctionnaire aussi, sur cette question des primes trimestrielles revendiquées, ça et là?
Sur la question de la légitimité, de la justesse de la revendication, nous sommes en phase. Pour nous, le moment est venu pour que cette question-là soit regardée de façon globale. Il y a des ministères à primes et d'autres qui n'en ont pas. Pour nous, en tant que centrale qui voyons les choses de façon transversale, la question est certes posée par les secteurs que vous avez cités, mais concerne tous les secteurs d'activité qui ne bénéficient pas des primes. Donc, nous nous sommes battus hier, en 2022, pour que l'indemnité contribuée au logement qui était réservée à une catégorie de fonctionnaires soit élargie à l'ensemble de la fonction publique. Il est donc justice aujourd'hui et équité que les primes trimestrielles soient également élargies à l'ensemble des fonctionnaires qui n'en bénéficient pas. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes en phase et le gouvernement lui-même n'a jamais dit qu'il était opposé à l'octroi de primes à qui que ce soit. La preuve, le comité consultatif va commencer ses travaux dès le jeudi prochain et à l'ordre du jour, vous avez la question des primes au niveau des fonctionnaires qui va être analysée avec Munistie pour que nous sortions de là avec, je dirais, des solutions transversales et définitives et qu'on analyse la chose de façon globale pour que le gouvernement ivoirien, comme il a su le faire par ailleurs sur les questions que j'ai citées plus haut, octroie, n'est-ce pas, des primes trimestrielles qui permettraient donc à ces secteurs-là de retrouver leur lustre d'antan, notamment au secteur éducation-formation ainsi que de la santé, pour jouer le rôle qu'on attend d'eux. Donc, sur ce plan-là, ni les centrales syndicales, ni le ministère de la fonction publique, encore moins l'État de Côte d'Ivoire, n'a opposé une fin de non-recevoir à cette revendication. Donc, pour nous, il faut laisser la chance à la discussion qui va donner des résultats, parce que c'est par la négociation que nous avons pu obtenir aujourd'hui dans ce pays, sur les 5 ans à venir, plus de 1000 milliards qui sont en train d'être distribués, n'est-ce pas, à tous les mois aux fonctionnaires. Donc, il faut faire confiance à l'architecture de la négociation, et c'est ce message-là que nous passons à nos camarades de nous faire confiance, puisque nous sommes membres de ce comité. C'est pourquoi nous demandons à nos camarades de permettre au président, qui a toujours regardé les choses avec bienveillance, de le faire pour que nous puissions encore obtenir. Il vient de donner une prime spéciale aux retraités, ce que nous avions espéré. Il l'a fait pour les fonctionnaires. Donc, il peut faire encore beaucoup de choses et nous pensons que c'est cette voie-là qu'il faut. Mais il faut le faire dans le calme, dans la sérénité et sortir des pressions et de la crispation qui n'était pas toujours avantageuse pour les partis.
Monsieur Théodore Zadignagna, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était le président de la Confédération Plateforme Nationale des Organisations Professionnelles des Secteurs Publics et Privés de Côte d'Ivoire, Théodore Zadi Nyanya. Invité de la rédaction, il répondait aux questions de Jean-Claude Decomé. Un entretien qui met un terme à notre édition, le rappel de l'essentiel. Le Conseil national des droits de l'homme poursuit ses échanges périodiques avec les partis politiques. C'est la jeunesse d'Abobo qui a bénéficié hier de cette 9e rencontre marquée par un panel sur leurs responsabilités en politique. Et hier, premier jour de la grève annoncée par les centrales intersyndicales des secteurs éducation, formation et santé, notre reporter Christelle Yesso a visité plusieurs structures à Abidjan et le suivi est mitigé selon son constat terrain. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir été des nôtres pour cette première édition de ce mercredi 16 octobre 2024 sur Radio de la Paix. Je vous laisse en compagnie de Didier Blé en direct en ligne de Yamoussoukro pour la suite des Matins de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.